Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié par Delcourt en 2006. Oko T02. Le cycle de l'eau 2 sur 2 est le second album du premier diptyque de la série de bande dessinée Oko, réalisé par Hub, qui assure à la fois scénario et dessin. Cette aventure de fantasy franco-belge situe son action dans Pajan, un empire imaginaire fortement inspiré du Japon médiéval et de ses récits de sabre. Oko, Ronin sans maître, y dirige une petite troupe de chasseurs de démons. Avec Noburo, le géant masqué, le moine Noshin et le jeune Tiku, il poursuit la piste de petites carpes, enlevées par des pirates. Une tempête conduit le groupe au château Satoru, dont les habitants paraissent accueillants mais dont le climat spirituel devient rapidement inquiétant. L'album vise moins la reconstitution historique que la création d'un monde cohérent où l'aventure, le fantastique et les tensions morales du récit de samouraï se rejoignent. Il conclut le cycle consacré à l'eau. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le château Satoru comme espace clos de mystère et de menaces. Le déplacement de l'action vers le château Satoru donne à ce second tome une structure plus resserrée que celle du début du cycle. Les héros ne progressent plus seulement dans un vaste territoire à la recherche de petites carpes, accueillies dans une demeure apparemment sûre après la violence de la tempête. Ils doivent interpréter des signes inquiétants et comprendre pourquoi les Kami ont abandonné les lieux. Cette question place le fantastique au centre du conflit. Dans le monde de Pajan, les forces spirituelles ne constituent pas un simple décor exotique, leur absence ou leur silence révèle un déséquilibre qui touche les habitants autant que les visiteurs. Le château devient ainsi un lieu de passage ambigu, protecteur en apparence et dangereux par ce qu'il dissimule. Cette construction permet à Hub de faire monter la tension par les observations, les échanges entre personnages et les révélations successives, plutôt que par le seul affrontement. Le cadre fermé favorise aussi une lecture de type enquête. Les protagonistes doivent distinguer les apparences sociales, les peurs collectives et les manifestations surnaturelles. La résolution du diptyque tire sa force de cette convergence entre aventures de sauvetage, huis clos et troubles religieux, sans réduire le mystère à un élément décoratif. Deuxièmement, une équipe de chasseurs de démons aux fonctions complémentaires, Oko ne repose pas sur la figure isolée du guerrier invincible. Le Ronin conduit un groupe dont les compétences, les tempéraments et les statuts créent une dynamique collective. Oko apporte la maîtrise martiale et une autorité de chef, mais il dépend aussi des autres membres de la troupe pour faire face aux situations qui dépassent le combat direct. Noburo, géant dissimulé derrière un masque rouge, impose une présence visuelle et physique singulière. Noshin, moine amateur de saké, introduit une relation particulière au monde invisible, puisqu'il peut invoquer et communiquer avec les forces de la nature. Tiku, jeune pêcheur engagé pour retrouver sa sœur Petite Carpe, donne au cycle son enjeu humain immédiat et rappelle que la mission ne relève pas seulement du métier de chasseur de démons. Cette répartition évite que le fantastique soit traité par une seule logique guerrière. Chaque personnage offre une manière différente de percevoir le danger entre expérience, puissance, savoir spirituel et attachement familial. Dans ce tome, la composition du groupe sert également le suspense face à un lieu dont les règles demeurent incertaines, aucune compétence ne suffit à elle seule. Hub construit donc une aventure d'équipe où la solidarité est nécessaire mais ne dissipe pas automatiquement les secrets ni les risques. Troisièmement, le Japon imaginaire de Pajan et les codes du récit de sabre, le cadre de Pajan emprunte au Japon médiéval des repères immédiatement lisibles, notamment les samouraïs, les ronins, les geishas, les châteaux et les croyances liées aux kami. Pourtant, Oko ne prétend pas livrer une représentation historique du Japon. Hub utilise ces éléments pour bâtir un univers de fantasy autonome dans lequel les références culturelles servent une fiction de voyage, de combat et de surnaturel. Cette distance est importante, elle permet au récit de mobiliser les codes du film de sabre sans être tenu par une exactitude documentaire. Le héros est un ronin, donc un homme sans seigneur, position qui autorise sa mobilité et son engagement auprès de personnes vulnérables ou en danger. La recherche de petites carpes, puis les événements liés à une jeune geisha enlevée, inscrivent l'action dans des rapports de protection, de dettes et de responsabilités plus complexes qu'une simple quête de gloire. Les influences souvent associées à la série, comme le cinéma de Kurosawa, la saga Zatoichi ou certains imaginaires animés japonais, renvoient à une atmosphère plutôt qu'à une imitation directe. Le résultat distingue la série de nombreux récits médiévaux européens, les enjeux de l'honneur, du masque. De la présence des esprits et de la violence, ils prennent une forme visuelle et narrative propre au monde de Pajan. Quatrièmement, l'eau, la tempête et le retrait des kami comme moteur dramatique, le titre du cycle indique que l'eau ne sert pas uniquement de décor. Dans ce second volet, la tempête qui pousse les héros vers le château Satoru transforme un événement naturel en mécanisme narratif décisif. Elle interrompt la maîtrise du trajet, isole les personnages et les mène vers un lieu où leur quête prend une direction nouvelle. L'eau apparaît donc à la fois comme force de déplacement et comme agent de dérèglement. Ce rôle entre en résonance avec la disparition des Kami du château. Les puissances naturelles et spirituelles, auxquelles Nōshin entretient un accès particulier, sont au cœur de la compréhension du problème. Le récit associe ainsi les conditions matérielles de l'aventure, voyage difficile, météo hostile et territoire inconnu, à une inquiétude plus profonde, concernant l'ordre invisible du monde. Ce dispositif enrichit le fantastique, le danger ne vient pas seulement de créatures à vaincre, mais de relations rompues entre une communauté, son environnement et ses protections spirituelles. Pour le lecteur, le cycle de l'eau propose une progression claire du mouvement incontrôlé provoqué par la tempête vers une interrogation sur les causes du malaise. Cette unité thématique donne de la cohérence au diptyque et justifie que les révélations du second album aient un poids supérieur à de simples rebondissements d'aventure. En dernier lieu, une conclusion de diptyque fondée sur les révélations et la puissance graphique, en tant que second volume du cycle de l'eau. Cet album doit à la fois poursuivre une mission déjà engagée et apporter une forme de résolution. Son intérêt tient à cette fonction de conclusion, les informations semées autour du château. Des enlèvements et de la situation spirituelle, des lieux prennent progressivement un sens plus net. Les retours critiques soulignent la présence de nombreux rebondissements. Découvertes et révélations, ce qui correspond à une architecture de diptyque où le premier volume installe les personnages et le danger, tandis que le second concentre les conséquences. Hub fait aussi de l'image un élément majeur de la lisibilité dramatique. Le grand format de la bande dessinée, les paysages, les architectures, les silhouettes armées et les manifestations fantastiques contribuent à rendre Pajan crédible sans long développement explicatif. La virtuosité graphique, souvent attribuée à la série, ne se limite donc pas à l'ornement, elle soutient la perception des rapports de force, de la menace et de l'étrangeté. Cette alliance entre dessin spectaculaire et scénario structuré explique la place particulière de ce volume dans la réception de la série. Il peut satisfaire le lecteur venu pour les scènes d'action, mais aussi celui qui recherche une intrigue mieux nouée, où le dénouement reconfigure les éléments inquiétants installés pendant le cycle. En conclusion, Oko T02. Le cycle de l'eau 2/2 conviendra particulièrement aux lecteurs de bandes dessinées de fantasy qui recherchent une aventure construite autour du récit de sabre, du surnaturel et d'un univers visuellement travaillé. Il intéressera aussi les amateurs de fiction inspirés du Japon médiéval, à condition de le lire comme un imaginaire de fantasy française et non comme un document historique. La lecture gagne à commencer par le premier volume du cycle de l'eau, car ce second album en prolonge la quête et en organise les révélations. Son bénéfice principal réside dans la manière dont il articule plusieurs plaisirs de lecture, la progression d'une enquête dans un lieu inquiétant. La complémentarité des membres du groupe, la tension d'une mission de sauvetage et la découverte d'un monde où les Kami influent sur le destin des humains. Comparé à des bandes dessinées de fantasy, plus centrées sur des guerres de grande ampleur ou sur une mythologie abondamment expliquée. Ce tome se distingue par son économie narrative. Le château Satoru concentre les enjeux et donne au fantastique une fonction dramatique précise. Par rapport à un simple récit de combat, Hub privilégie une atmosphère de doute et une résolution nourrie par les secrets du lieu. La double maîtrise du scénario et du dessin renforce cette cohérence. Le volume constitue ainsi une conclusion accessible, dense et graphiquement expressive d'un diptyque marquant dans la série Oko. Si vous souhaitez soutenir Shub, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.